Absolument. Ben, en fait, aujourd'hui, c'est vrai qu'il n'y a pas que les Rouennais qui le portent, mais c'est vrai que c'est une tenue locale qui nous vient du Bénin,
Du Bénin.
du 229.
C'est ça. Ça, c'est le. Il y a quelqu'un qui demande, quand vous dites 229, là, c'est.
C'est l'indicatif
Ah, ok,
du
téléphonique.
Bénin.
Ça
Mais.
existe encore avec les WhatsApp et tout ça, là.
C'est vrai, hein,
Franchement, changer de
faut qu'on
téléphone,
change
vous êtes trop vieux,
vraiment.
hein. Soyez un peu, soyez à jour, soyez à jour. Emilio, on parle. Alors, que les auditeurs le sachent, et surtout, je vais dire quelque chose, je ne te demande pas de revenir là-dessus,
Oui.
s'il te plaît. Nous parlons religion. Nous avons eu un débat, comme d'habitude. Emilie, calme-toi. Nous avons eu un débat.
Oui.
Entre nous, comme à chaque fois qu'il y a
Voilà, à chaque fois qu'il y a des, hein,
des sujets
qui nous parlent.
oui, qui nous parlent, on a eu débat. Donc, tu te posais la question de savoir si, alors pour que pour voir si j'ai bien compris, si les religions locales étaient un outil de résilience identitaire.
Exactement.
D'abord, se poser la question, c'est un peu. Tout ça, c'est pour dire quoi, en fait?
Je vais dire la chose autrement. Est-ce que la religion, mais pourquoi j'ai dit locale? J'essaie de trouver un mot qui devait, religion locale, voir ça ici comme l'inverse des religions importées. D'accord? Donc
OK.
les religions importées, donc principalement christianisme et islam, qui sont beaucoup plus répandus en Afrique subsaharienne. Et donc voir par religion locale notre religion d'origine, hein, associée à notre tradition, associée à nos croyances. Et
D'accord.
donc est-ce que notre religion et notre spiritualité, ou notre religion, notre spiritualité, peut représenter une façon ou un moyen de faire face à l'aliénation, hein, en tant qu'afro-descendant, en tant qu'Africain?
OK.
Donc c'est un peu ça la question du jour en fait.
D'accord.
Est-ce que c'est un
Oui,
peu plus clair?
c'est
C'est plus
clair,
clair?
c'est plus clair. C'est plus
Exactement. Et
clair.
Monsieur Cyril Ekuala, donc voilà, qui est notre chef de file, il faut le rappeler, il a posé le problème de est-ce que tu veux parler de religion ou de croyance?
Oui.
Parce que il dit que la religion, et on va revoir les définitions sous demande justement du chef d'orchestre, mais
Tu n'es pas
parce que
obligé
c'est ça.
d'insister là-dessus.
Donc il voulait voir, parce qu'il faut faire attention, on n'a pas une notion similaire en Afrique de tous ces
Oui,
aspects-là.
tout à fait.
Alors c'est ça. Et donc j'ai dit à Cyril que je parlais vraiment de religion dans ce cas-là, parce que pour pouvoir présenter la chronique, pour parler en fait de ce sujet, on va présenter le cas du Candomblé, qui est une religion au Brésil. Mais on s'entend que ça ne met pas de côté les croyances, parce que la religion, c'est en fait ce qui vient hiérarchiser et formaliser les croyances.
Merci.
Voilà.
Merci. Le cas d'emblée, c'est ça?
Le Candomblé.
Ok.
Si ça dit vraiment à la façon, de
Oui.
la façon française
Non, non,
qu'il soit, exactement.
je connaissais pas du
Candomblé.
tout.
Moi aussi, je ne connaissais
Je
pas.
connaissais pas.
Et je profite justement à dire que ça a été une suggestion d'un ami à moi et un fidèle de la chronique aussi qui me l'a proposé. Voyons les chroniques que je fais, Marc Moukoukou, que je salue, et qui m'a dit ça pourrait être intéressant. Et j'ai décidé de creuser en fait ce que c'était et d'analyser cette religion sous cet aspect-là.
Ok.
Voilà. Alors. Pour cette mise en contexte, voilà, parce qu'il faut faire des mises en contexte, on essaye de suivre l'exemple de Jade.
Contextualise donc.
contextualisons. Ce matin, on a reçu une charmante invitée, donc Ayana Oshun, qui nous parlait justement de sa pièce de théâtre qu'elle devait faire dans les prochains jours, la semaine prochaine, si je ne m'abuse. Et elle nous expliquait pourquoi elle s'appelait Ayana Oshun aujourd'hui. Donc, c'est une actrice comédienne d'origine haïtienne. Et elle a dit qu'elle s'appelait Ayana Oshun parce que c'était un moyen, si je dois simplifier un peu ce qu'elle a dit, de se reconnecter à son identité. Alors, pourquoi je prends cette mise en contexte-là? Parce que Oshun, tu l'as dit tout à l'heure, c'est une divinité Yoruba. Et donc, on voit là. On a un cas concret ici en plein studio de Néo-Québec qui a une afro-descendante qui vit à Montréal, qui, pour se reconnecter à son identité, a choisi le nom d'une divinité Yoruba. Alors, comment est-ce que, à travers justement une direction spirituelle, on peut se reconnecter en fait à son identité? Alors, j'en viens donc à la précision des notions, parce que c'est très important aussi de préciser ces notions pour le but de la chronique. Donc, c'est quoi la religion? Il faut quand même faire une petite distinction entre religion et spiritualité très rapidement. La religion, comme nous a dit Cyril hier dans notre conversation, et selon les définitions, c'est un ensemble de règles, de codes et de lois que doivent respecter les adeptes. Donc, c'est vraiment la formalité en fait des croyances, comme je disais. Elle impose donc une organisation hiérarchique à laquelle on ne peut pas ou on ne doit pas déroger. Tandis que la spiritualité, c'est d'abord une relation individuelle. Donc, c'est la relation qu'on a nous-mêmes avec nos traditions et nos convictions. Mmh. Donc, la religion vient justement hiérarchiser et vient formaliser les croyances qu'on a en fonction du peuple auquel on appartient.
Embrigader tout ça.
Embrigader. Exactement. Alors, on parle aussi d'aliénation. C'est un terme qui est crucial pour la chronique. L'aliénation, il faut rappeler que c'est la dépossession violente de l'identité morale, spirituelle, culturelle, politique et économique d'un individu. Je dis violente parce qu'on sait qu'un des moyens d'aliénation qui a été utilisé, c'est l'esclavage puis la colonisation. Il n'y a rien de plus violent que ça. Donc c'est le fait de se déposséder de qui on est sur tous les plans. Maintenant, ceci étant dit, de quelle façon nos croyances et nos religions peuvent représenter des facteurs de résilience ? Alors, on va faire l'analyse à travers justement le camp d'emblée. Et pour le faire, il faut qu'on sache c'est quoi le camp d'emblée. Tu m'as demandé c'est quoi le camp d'emblée. Voilà. Alors, le terme camp d'emblée, c'est d'abord un terme d'origine bantou qui désigne les cérémonies publiques au cours desquelles les dieux viennent danser et se mêler aux humains dans la transe de possession. Donc ça, c'est vraiment une définition générique qu'on peut retrouver de façon scientifique. Alors, le camp d'emblée fait également référence à la maison de culte où se déroulent les rites initiatiques, les sacrifices et souvent les consultations où le destin est interrogé à travers nombreuses méthodes comme par exemple la lecture des Koris. Alors, ce culte-là, il est arrivé au 15e siècle avec les esclaves déportés, donc au Brésil. Il arrive au 15e siècle au Brésil, avec les esclaves déportés qui, il faut le rappeler, sont à plus de 3 millions. Hein, il y a eu plus de 3 millions d'esclaves déportés au Brésil. Donc, c'est quand même un des pays de l'Amérique latine, sinon le pays de l'Amérique latine qui comporte le plus d'afro-descendants. Exactement. Alors, il s'agit là d'une religion syncrétique. Pourquoi on dit que le camp d'emblée est une religion syncrétique ? Donc, parce qu'elle mêle plusieurs croyances. Donc, c'est une religion qui mêle plusieurs croyances, notamment les cultes yoruba, les cultes fon et les cultes bantous. On dit également que le camp d'emblée est syncrétique parce qu'il y a certains aspects de la religion catholique qui sont justement, qu'on retrouve aujourd'hui dans cette religion-là. Alors, la raison est simple. C'est tout simplement parce que à cette période-là, donc pendant la période de l'esclavage, les esclaves, les afro-descendants avaient été, c'était interdit pour eux de pratiquer leur religion, leur croyance. Donc, il n'y avait que le catholicisme qui était permis. Donc, dans la pratique, dans l'expression de la spiritualité. Alors, un des moyens pour ces afro-descendants-là, justement, de contourner cette interdiction, c'était d'associer les divinités du camp d'emblée aux saints du catholicisme. À cet effet, un saint comme une divinité comme Sango, donc Sango, c'est la divinité de la foudre, du tonnerre, dans le culte yoruba, qu'on retrouve aussi aujourd'hui dans le camp d'emblée, est représenté par San Pedro. C'est-à-dire que pour pouvoir pratiquer leur religion en toute sécurité, sans éveiller les soupçons, ils allaient associer une divinité comme Sango à un saint comme San Pedro, Saint-Pierre. Okay. Donc, Saint-Pierre pour les catholiques, San Pedro au Brésil, pour pouvoir justement pratiquer leur religion sans éveiller les soupçons. Alors, ça veut donc dire justement que le camp d'emblée, c'est une religion qui en fait reconnaît qu'il y a un dieu tout-puissant, qui est le dieu Olundumare, et qui est servi par différentes divinités. Donc ça démontre à quel point c'est vraiment une religion qui s'inspire des cultes yoruba. Ces divinités-là qu'on peut aussi appeler des orishas. Donc je pense que beaucoup de personnes sont beaucoup plus familières à ce terme-là. Il faut savoir aussi qu'il y a différents type de camp d'emblée selon les régions. À titre d'exemple, il y a le camp d'emblée Angola-Congo ou alors le camp d'emblée GG. Alors, vous me voyez sourire parce que j'ai en face de moi Cyril qui me fait énormément sourire. Merci. Alors, maintenant que c'est dit...
C'est la façon dont il est prononcé.
C'est ça, exactement. Donc, le camp d'emblée, donc, durant la période de l'esclavage et même après... Durant tout le 19e siècle et pendant la moitié du 20e siècle, va être une religion interdite, va être une religion réprimée et va être une religion stigmatisée. Mais à partir des années 1959, donc à la fin des années 1950, alors que cette religion est toujours réprimée, les membres de la culture afro-africaine brésilienne, donc les afro-descendants du Brésil, vont jouer un rôle actif dans la divulgation de la samba. Donc la samba, c'est en fait une forme musicale à matrice religieuse qui est fortement liée au camp d'emblée. Donc, ils vont jouer une. Ils vont commencer à activer pour que la samba soit de plus en plus valorisée à travers les médias. Par la suite, l'essor des médias visuels, donc quand je parle de médias visuels, évidemment la télévision, mais encore plus récemment avec les réseaux sociaux, va permettre en fait une plus grande vulgarisation des rites initiatiques même qui sont associés au candomblé et à tous les types de candomblé. Liés donc à la spiritualité de ces afro-descendants-là. Et ça va entraîner une prise de conscience identitaire, en fait, de ce que ça peut représenter. En fait. Exactement, c'est tout à fait stratégique. Parce qu'ils savent justement qu'ils sont réprimés par rapport à ça. Et ils veulent se faire entendre. Il faut rappeler que le Brésil, aujourd'hui, il y a encore une très forte présence du racisme. À cette époque-là, c'était encore plus fort. Donc, ils voient au candomblé, ils voient en cette religion-là, en cette pratique, un moyen, en fait, de valoriser leur identité au sein de la société civile. Et ils vont passer justement par l'emprise des médias, donc médias visuels, médias sociaux. Donc, c'est de cette façon, en fait, que le candomblé va trouver un écho favorable auprès des populations afro-descendantes du Brésil et qui va commencer à trouver une reconnaissance et une valorisation. Donc, aujourd'hui, le candomblé est pratiqué par 3 millions de Brésiliens, sinon plus, et il n'est plus juste une religion, mais il représente une arme qui est utilisée donc par les afro-descendants pour lutter contre l'assimilation et contre l'aliénation identitaire et morale. J'ai trouvé un très bon exemple pour mieux expliquer ça, pour mieux expliquer comment le candomblé justement est utilisé comme arme justement contre l'aliénation, à travers l'exemple de Kiusam de Oliveira. Donc Kiusam de Oliveira, c'est une auteure, une professeure afro-descendante brésilienne. Elle a publié en 2008 une œuvre qui s'appelle Le Candomblé, Candomblé of K2 and Education Strategies for the Empowerment of Black Women. Donc, c'est en fait l'objectif de cette œuvre, c'est de montrer comment la spiritualité, notre religion, donc pour le cas du candomblé, peut être un des piliers pour l'empowerment des femmes noires, autant jeunes femmes que femmes d'une certaine génération. Alors, lorsqu'elle raconte son histoire,
sujet,
en fait,
ça,
tout à fait, un très beau sujet d'étude. Donc, elle raconte en fait que et comment vient en fait son implication dans le candomblé, pourquoi elle se lance dans ça, c'est que à l'âge de 11 ans, sa maîtresse va lui dire, elle va poser une question à sa maîtresse et sa maîtresse va lui dire qu'elle ne répondra pas à sa question parce que de toutes les façons, elle n'est vouée à rien d'autre que d'être une bonne plus tard. Donc on est dans un contexte énorme de racisme, l'esclavage n'est pas si loin et tout. Et elle lui répond ça. Et cet épisode-là va vraiment la marquer et va la traumatiser. Et ça va venir renforcer la haine qu'elle a d'elle-même. Donc, haine qu'elle a d'elle-même par rapport à sa peau noire, par rapport à ses cheveux crépus, par rapport à ses traits. Donc, l'aliénation était déjà présente. Et la réplique de sa maîtresse va venir renforcer l'aliénation qu'elle ressentait déjà, la haine qu'elle avait déjà d'elle-même. En rentrant à la maison, suite à cet épisode, elle va demander à sa maman de la tremper dans une bassine d'eau de Javel pour qu'elle devienne plus claire, qu'elle devienne blanche. Donc, on voit le degré, et on voit vraiment le degré d'aliénation. C'est ça, il n'y a pas un autre mot.
Ouais.
Exactement. Et c'est la première fois qu'elle va voir sa mère pleurer, en fait, parce que sa mère, ça va vraiment choquer sa mère. Il faut noter que ses parents sont catholiques à cette époque. Et parallèlement à tout ce qu'elle vit, parallèlement à cet épisode-là, la petite Kiusam, donc qui est enfant à cette époque-là, est tourmentée spirituellement. Donc, elle vit vraiment elle fait des cauchemars, elle a des visions, elle est tourmentée sur le plan spirituel. Donc, pour pouvoir régler ses problèmes, ses parents vont essayer de l'amener à l'église, puisqu'ils sont catholiques, mais ça ne va pas fonctionner, ça va continuer. Et un jour, son papa est au travail, il est triste, et un de ses collègues demande justement à son père ce qui se passe. Et donc, le papa de la petite Kiusam explique en fait que sa fille est tourmentée et qu'ils ne savent pas par quel moyen passer. C'est comme ça que le collègue va proposer justement au papa de venir à un culte de candomblé pour pouvoir justement libérer sa fille, spirituellement parlant. Il est réticent parce qu'il est catholique, mais il va quand même aller avec sa fille. Et ça va changer la vie, justement, de Kiusam. Elle va passer des années à vraiment respecter les préceptes du culte. Et au fur et à mesure, elle-même, elle le dit, « I found myself completely ». Elle va pouvoir se retrouver. Comment elle arrive à se retrouver? C'est tout simplement à travers les préceptes, en fait, de cette religion-là. Et parmi ces préceptes, on peut noter, en fait, l'apparence des orichas, donc l'apparence des divinités qui montraient à la petite fille. Elle se rend compte que les divinités sont noires comme elle, ont des cheveux crépus, ont des traits comme elle, ont les mêmes traits qu'elle. Donc, elle arrive déjà à trouver pour la première fois de sa vie une représentation. Elle arrive à s'identifier à quelque chose qui est considéré comme positif. Dans le conte d'Omblée, elle constate aussi que les femmes sont à la fois fortes et féminines. Il faut noter que les femmes sont des prêtresses, hein, comme le culte vaudou, si on peut retrouver ça. Et donc, elle voit là une autre image de la femme noire. Une femme qui peut être à la fois forte, qui peut être leader, qui peut être féminine. Donc ça vient renforcer en fait la positivité de la femme noire dans son esprit. Aussi, elle constate en fait que la femme peut être une guerrière, une protagoniste de son histoire. Donc au fur et à mesure, elle va avoir une autre image de son identité et va en fait, ça va lui permettre de se réapproprier identitairement, une image valorisante d'elle-même d'une femme noire. Donc elle va pratiquer, elle le pratique toujours et Kyuzam n'est pas la seule dans ce cas-là. Donc elle va donner des cours qui visent justement à renforcer l'empowerment des femmes à travers cette religion-là, à travers ce que ça peut faire. Donc on voit là, à travers cet exemple-là, que le conte d'Omblée, à travers ce que le conte d'Omblée valorise, à travers ce que le conte d'Omblée vulgarise comme précepte, qu'il y a cet moyen de s'identifier en tant que femme noire et en tant qu'homme aussi, pour pouvoir justement se redonner une valorisation de soi. Une chose aussi qu'elle note, et c'est très important, et là ça fait un lien avec la chronique que j'ai faite la semaine dernière sur la transmission orale, elle dit que ce qui l'a beaucoup aussi aidé, c'est que tous les préceptes de la religion sont transmis de façon orale. Et donc ça lui a permis de voir la puissance de l'oralité, justement, et l'oralité féminine, en fait. Parce que, comme je dis, les prêtresses jouent un énorme rôle dans cette religion-là. Et donc c'est un exemple, en fait, de religion qui démontre, comme à travers tant d'autres religions, que à travers notre spiritualité et nos religions d'origine, on peut se retrouver en tant qu'homme noir, en tant que femme noire, on peut se retrouver en tant que personne qui existe et qui a une identité valorisée. Et on voit donc à travers le conte d'Omblée que la spiritualité et la religion peuvent être des moyens au final, et je vais finir là-dessus, de réappropriation identitaire. Tout à fait. Donc, je trouvais que c'était intéressant. Non, j'ai beaucoup découvert à travers cette religion-là. Et il faut savoir que ce n'est pas la seule religion qui est pratiquée dans ce sens en Amérique latine, au Brésil. Il y a plein d'autres. Et ça pourrait être le cas de plusieurs autres religions comme les nôtres en Afrique subsaharienne aussi.
Au moins, ça permet de se...
Tout à fait. Je comprends maintenant. Et voilà, c'est ça. Et comme on l'a dit, quand on sait c'est quoi la spiritualité, c'est d'abord ce rapport qu'on a à nous-mêmes. Quel merveilleux point de départ que de commencer avec un rapport à nous-mêmes positif pour pouvoir après justement le transmettre sur d'autres aspects.
Merci beaucoup, Émilie. On a appris, c'est bon, ça, le d'Omblée. Je vais m'y intéresser.
En tout cas, les liens seront évidemment dans ma chronique pour ceux qui veulent approfondir.
Merci à ton ami là, de t'avoir
inspiré. Merci à Marc Moukoukou.
Inspiré. Ouais,
exactement.
Merci d'avoir écouté Néo-Québec. Vous pouvez retrouver toutes les vidéos des chroniques sur notre page Facebook où nous diffusons nos chroniques live tous les jeudis matins. N'hésitez pas à vous abonner également au podcast sur la plateforme que vous préférez, à recommander, partager et nous laisser vos commentaires. Cela aide toujours. Un lien est disponible dans les notes des épisodes pour nous laisser des messages audio que nous pourrons écouter et pourquoi pas partager dans un prochain épisode. Et pour conclure, on vous laisse avec une citation de Aude Lorde. Lorsque nous parlons, nous craignons que nos mots ne seront pas entendus ou accueillis. Mais quand nous sommes silencieux, nous craignons toujours. Il est donc préférable de prendre la parole.